Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Hommage à Jean-Paul Belmondo jeudi après-midi aux Invalides. L'Élysée veille aux préparatifs avec la famille de l'acteur. Les détails du déroulement de la cérémonie dans ce journal. La question des retraites, réveillée par l'exécutif à l'approche de l'automne. Emmanuel Macron aimerait faire passer des mesures avant la fin de son mandat. Éclairage à suivre. Toujours trop de non-vaccinés pour l'Institut Pasteur. Une population surreprésentée dans les hôpitaux. Nous irons dans un quartier populaire de Roubaix en retard sur la vaccination. Vous entendrez aussi le message très direct de Jean Castex, message adressé aux anti-vaccins et anti-pass sanitaires. France-Finlande, match de qualification pour le Mondial 2022. On est dans la deuxième période, Cyril de la Morinerie. Cette fois, les Bleus prennent le dessus.
Oui, 2-0 pour l'équipe de France, le doublé d'Antoine Griezmann. Il reste encore une trentaine de minutes à jouer ici à Lyon.
Cyril, on vous retrouve plus longuement à la fin de ce journal. Ce sera juste avant la météo. Demain, il fera encore chaud, mais les orages arrivent. À suivre également Top à Wall Street avec Didier Hamot. Et puis, nous serons au Salon de l'Auto de Munich avec l'invité éco, Fabrice Combolive, du constructeur Renault. L'hommage à Jean-Paul Belmondo sera aussi tourné vers le public jeudi après-midi aux Invalides. L'Élysée pilote les préparatifs avec la famille de l'acteur. Jacques Sauret, vous avez des précisions sur le déroulement de la cérémonie.
Oui, l'hommage national débutera jeudi à 16h30 dans la cour des Invalides. La famille du comédien, des proches, des personnalités du monde du cinéma et du sport, ainsi que des politiques. Au total, l'Élysée a invité près de 700 personnes. Mais la famille de Jean-Paul Belmondo désire que cet hommage soit aussi populaire. C'est pourquoi un millier de places seront ouvertes au grand public dans les coursives du monument. Chacun pourra se présenter à l'entrée sans inscription, mais avec un pass sanitaire valide. Pour les autres, deux écrans géants seront installés à l'extérieur sur les pelouses de l'esplanade pour suivre la cérémonie. Cérémonie au cours de laquelle Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo. S'en suivront la sonnerie aux morts, une minute de silence, puis la Marseillaise jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Le tout sous le regard de militaires des trois armées, l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air. Car il y a trois ans, Jean-Paul Belmondo avait été fait grand officier de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Et cette distinction permet cet hommage militaire.
Merci Jacques Sauret. Une cérémonie aux Invalides, l'hommage que les fans attendaient. Certains d'entre eux se sont déjà recueillis devant l'immeuble où vivait Belmondo, Quai d'Orsay à Paris. Reportage Caroline Baudry.
Devant la porte d'entrée de cet immeuble face à la Seine, une dizaine de bouquets, des enveloppes et des dessins, comme ce pastel en noir et blanc peint par Yveline. Elle est venue du Val-de-Marne avec son amie pour le déposer.
Un portrait de Belmondo avec un blouson de cuir et puis, excusez-moi l'expression, la gueule, quoi, là, vraiment de Belmondo.
C'est vraiment l'icône des artistes de cinéma. J'ai toujours suivi tout ce qu'il a fait. Et humble, simple. Toujours souriant.
Dans deux jours, ils reviendront à quelques mètres de là, place des Invalides, lors de l'hommage national à celui qu'ils appellent leur idole. Une cérémonie à la hauteur de l'homme qu'il était, selon Agnès.
Je trouve qu'il le mérite autant qu'un homme politique. C'était vraiment l'étoile de la France, quand même. Belmondo, dans la popularité cinématographique, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et il a apporté, avec son grand talent, le rêve. Il nous a apporté le rêve.
Et pourquoi pas une place au Panthéon, évoque ses fans, qui insistent, rien ne sera trop beau pour Belmondo.
Et Caroline Baudry, les obsèques de Jean-Paul Belmondo seront célébrées vendredi à l'église Saint-Germain-des-Prés à 11h. Procès historique demain à Paris, le procès des attentats du 13 novembre 2015. Une cour d'assises spéciale va siéger pendant près de 9 mois, c'est inédit. Parmi les 20 accusés, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos terroristes. Gérald Darmanin a envoyé au préfet des consignes de vigilance sur tout le territoire pour l'ouverture de ce procès, en particulier près des lieux sensibles, lieux de culte et salles de spectacle. Au lendemain d'une attaque de policiers à Marseille, attaque qui a permis à un homme tout juste interpellé, dealer présumé, de s'échapper, la cité Frévalon dans les quartiers nord est désormais placée sous étroite surveillance. Stéphane Burgat.
La vie poursuit son cours à Frévalon, sauf pour le trafic de stupéfiants en raison de la présence d'équipages de CRS stationnés juste en face de la Grande Tour où s'organise habituellement ce point de vente. Bien connu et donc ciblé hier après-midi par les trois équipages de la brigade spécialisée de terrain. Conséquence de tout ce tumulte, les trafiquants font profil bas, le calme est de retour. On rappelle qu'hier, à l'arrivée des CRS, deux personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles. et les recherches se poursuivent avec beaucoup d'optimisme pour retrouver principalement deux personnes. Tout d'abord, le dealer présumé arraché des mains des policiers, un jeune homme qui sera âgé de 23 ans et qui aurait fui menottes au poignet. Et puis enfin, dans l'attroupement violent d'une dizaine de personnes, celui qui aurait frappé un des fonctionnaires avec un bâton, le blessant au crâne et occasionnant 10 points de suture et 7 jours d'incapacité totale de travail. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Au Tarteret, à Corbeil-Essonne, 4 interpellations après 5 nuits de violence depuis jeudi dernier et l'arrestation musclée d'un jeune lors d'un rodéo urbain. 2 policiers ont été légèrement blessés. Il n'y a rien d'enterré sur la réforme des retraites, affirme Gabriel Attal. Emmanuel Macron est prêt à prendre des décisions difficiles avant la présidentielle. On croyait la réforme des retraites mise de côté pour ce mandat, Louis Dragnel. Alors, que faut-il comprendre ?
Eh bien, tout d'abord, à ce stade, il n'est pas question d'une réforme de l'âge de départ à la retraite, ni d'âge pivot, ni même encore de durée de cotisation. Pas de grand soir, pas de grande réforme des retraites donc. En fait, Emmanuel Macron envisage de s'attaquer à un sujet extrêmement symbolique et donc à forte portée politique, la suppression des régimes spéciaux. Il devrait en parler demain au Conseil des ministres, même si pour le moment, rien n'est encore définitivement tranché. En revanche, le message est très clair, parler à la droite, surtout libérale. Mais avec Emmanuel Macron, le fameux « en même temps » n'est jamais loin. Si le chef de l'État envisage donc de supprimer les régimes spéciaux, il prévoit dans le même temps d'instaurer une retraite minimum de 1000 euros. Et là, pour le coup, un objectif, parler à la gauche. Mais il doit encore composer avec sa propre formation politique, La République En Marche. Et on sait par exemple que le président de groupe, Christophe Castaner, n'est pas du tout favorable à l'organisation d'un débat à l'Assemblée nationale. Vous l'avez compris, avec ces mesures d'abord et avant tout symboliques, nous sommes bel et bien en campagne électorale et l'objectif d'Emmanuel Macron n'a pas changé, essayer de fracturer le plus possible la droite et la gauche qui du coup crient au cynisme.
Merci Louis Dragnel. La croissance française devrait finalement dépasser les 6% cette année, annonce l'INSEE, prévision revue à la hausse par l'Institut National de Statistique. La quatrième vague de Covid n'a donc pas perturbé la reprise économique. Elle n'a pas sabordé non plus la rentrée, annonce Jean-Michel Blanquer. L'impact sur les fermetures de classes reste très limité, assure le ministre de l'Éducation.
C'est important de faire le point sur cette rentrée scolaire puisqu'elle date de la fin de la semaine dernière. Je vous le dis aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 545 classes fermées en France. On est donc à 0,1%. C'est une donnée importante qui montre que pour l'instant, on est dans une gestion de la situation qui ressemble à celle de l'année dernière. Et en effet, sur l'ensemble du territoire, on peut considérer qu'aujourd'hui, elle s'est bien passée, au sens où les élèves étaient au rendez-vous, les professeurs étaient là, et où nous n'avons pas de remontée de problèmes trop importants.
Et Jean-Michel Blanquer, cet après-midi à l'Assemblée nationale, l'Institut Pasteur s'inquiète, lui, du nombre de Français toujours pas vaccinés. Il contribue de manière disproportionnée à la transmission du Covid, s'alertent les scientifiques. Les plus de 60 ans non vaccinés représentent 3% de la population, mais près de la moitié des hospitalisations. Direction Roubaix, dans le Nord, dans un quartier populaire où le vaccin est très en retard. Une campagne de vaccination sans rendez-vous tente de convaincre les réticents. Reportage Lionel Gougelot.
Je pense qu'on peut peut-être y aller ensemble au départ, histoire de prendre un peu la température. D'accord.
Le petit groupe d'ambassadeurs de la vaccination s'engage dans la rue commerçante. Première rencontre sur le trottoir et déjà les premières oppositions.
Alors je vous dis, on est des anti-vax ici.
On ne sait pas où qu'on est pour ce vaccin, c'est pas ce qu'il va nous donner.
Moi je vous propose, c'est d'aller au centre de vaccination, de voir un médecin et il va vous expliquer exactement ce qu'il en est.
Difficile de convaincre ce groupe de jeunes, assez représentatif des réticences qui s'expriment dans le quartier selon Fessal, l'un des médiateurs.
On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le vaccin, le vrai nombre de morts, c'est ce qu'on entend à longueur de journée. Au moins il y a un échange, c'est ça, c'est intéressant. Il y a des informations qui sont lâchées et puis ça va travailler dans la tête. Le message passera.
Mais un peu plus loin, les médiateurs ont convaincu Mustapha, un habitué du quartier, accompagné jusqu'au centre de vaccination.
Je pouvais le faire il y a longtemps, mais il y avait des amis qui me disaient de ne pas le faire et tout ça. Ça fait que j'étais embrouillé entre les deux. Et monsieur m'a convaincu et je suis...
Un travail de conviction sur le terrain qui, selon Jean-Philippe Danquane, l'adjoint chargé de la santé, va devoir forcément s'étaler dans le temps.
On va faire tous les quartiers de la ville successivement sur 4 semaines, revenir dans 4 semaines ici pour éventuellement faire les rappels des gens qui ont été vaccinés aujourd'hui.
Et pour la deuxième dose, ajoute l'élu, s'il le faut, on les rappellera. Pas question de les perdre en route. À Roubaix, Lionel Gougelot, Europe 1.
Les non-vaccinés se partagent entre les hésitants, les réticents et les opposants. C'est à ces derniers que s'adresse Jean Castex, message très direct du Premier ministre aux anti-vaccins et anti-pass sanitaires.
Ce n'est pas une liberté fondamentale, celle qui consisterait à contaminer autrui en considérant son droit individuel comme un droit absolu. Manifester est un droit, contester l'est aussi, mais dans le respect du cadre républicain. Et on viole le pacte républicain quand on recourt à des propos antisémites, quand on met le feu à des centres de vaccination, quand on agresse des personnes qui demandent le pass sanitaire, quand on essaie de prendre des faux rendez-vous dans l'intention de faire perdre des doses vaccinales, quand on s'en prend à des élus et à des parlementaires de la République par des actes de violence ou d'intimidation parfaitement inadmissibles.
Jean Castex qui concluait ce mardi les journées parlementaires de La République en marche à Angers. Le vaccin Pfizer sera livré aux soignants libéraux à partir du 1er octobre. Médecins de ville, pharmaciens, sages-femmes et infirmiers libéraux attendent ce vaccin Pfizer depuis plusieurs mois maintenant. Une sirène qui hurle, les voisins qui crient. Le bruit peut faire de notre vie un cauchemar. Il peut même nuire à la santé. Résultat d'une étude de l'ADEME et du Conseil national du bruit. 25 millions de Français seraient concernés par la pollution sonore. Un tiers en région parisienne. Lauriane Rossi, présidente du Conseil national du bruit et députée LREM des Hauts-de-Seine, alerte sur l'ampleur de ces nuisances sonores.
Il y a non seulement de plus en plus de sources de pollution sonore, qu'elles soient issues des transports, des activités de voisinage, des activités industrielles, etc. Et puis une exposition qui s'aggrave vis-à-vis de ces nuisances, vis-à-vis de ce bruit. Et nous avons beaucoup de personnes, des millions de personnes dans notre pays qui sont exposées à ce que l'on appelle le cumul de bruit, c'est-à-dire une exposition à une pollution sonore multiple. Vous pouvez habiter à côté d'une voie ferrée ou d'un grand axe routier ou d'une ligne de métro et puis subir aussi les nuisances de voisinage, qu'il s'agisse d'un voisin, qu'il s'agisse d'une activité industrielle ou événementielle, musicale, pas très loin de chez vous. Beaucoup de nos concitoyens n'en peuvent plus.
Lauriane Rossi avec Romain Desarbres dans Europe Midi. Les Bleus affrontent en ce moment même la Finlande au Groupama Stadium à Lyon. Match de qualification pour le Mondial 2022. On retrouve en direct Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Cyril, les Bleus dominent ce match cette fois, ça y est. Hein.
Ah oui, ils dominent largement cette partie. Ça fait plaisir de voir cette réaction de l'équipe de France qui restait sur 5 matchs nuls consécutifs. Hugo Lloris avait eu des mots durs, en tout cas assez, un discours assez musclé, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Et Hugo Lloris, le capitaine, a été entendu. Il faut dire qu'on a un patron ce soir, c'est Antoine Griezmann. Un doublé, il a marqué alors que Benzema est dans la surface de réparation, il donne à Griezmann, peut-être pour le triplé, finalement c'est juste à côté, Antoine Griezmann le mâconnet, il n'est pas très loin de Lyon, les origines d'Antoine Griezmann qui a marqué ce soir son 40e et 41e but avec l'équipe de France, illégal, le légendaire Michel Platini qui avait marqué 41 buts avec la tunique bleue, alors son premier but a été inscrit à la 25e minute pour Antoine Griezmann sur une passe de Karim Benzema, l'enfant du pays qui est de retour ici, qui joue son premier match au Groupama Stadium. Il a joué évidemment du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est une très belle talonnade de Karim Benzema dans la course de Griezmann qui a fait un extérieur du pied gauche de toute beauté. Premier but pour lui et puis le deuxième de Griezmann, c'était à la 53e minute avec un beau décalage de Dubois sur Griezmann avec une frappe dans un angle fermé. Le gardien est un petit peu monté à quelques mètres de son poteau et Griezmann a réussi donc à marquer. Mais on voit une équipe vraiment métamorphosée ce soir avec beaucoup de mouvements autour d'Antoine Griezmann, de Benzema, de Paul Pogba et puis un très bon Théo Hernandez pour son premier match qui nous fait penser évidemment à son frère Lucas. Voilà, les Français mènent 2-0. On peut dire même qu'Antoine Griezmann mène 2-0. Il est formidable ce soir. 71 minutes de jeu pour ces Bleus face aux Finlandais.
Eh ben voilà, ça fait plaisir de voir les Bleus à l'avantage ce soir face à la Finlande. Merci Cyril. On refera bien sûr un point complet avec vous sur ce match France-Finlande avant 22h30. Le temps pour demain, mercredi, Marlène Duret. Ça y est, c'est l'heure de payer la note. Les orages arrivent.
Hein. Exactement, les premiers orages. En fait, on les attend cette nuit, Alexandre, plutôt du côté de la Bretagne, de la Loire-Atlantique. Et puis, ils vont continuer à circuler demain matin de la Bretagne jusqu'au Poitou-Charentes. En allant un peu plus vers l'Aquitaine et les plaines du Sud-Ouest, résultat, le ciel sera d'abord variable en matinée avant la dégradation prévue en journée. Une matinée bien grise et humide pour le pourtour du golfe du Lion et l'évolution en journée parce que ça nous intéresse. Cette dégradation orageuse va s'étendre de la basse Normandie et de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées en passant par le centre-val de Loire, le Limousin, l'Auvergne. Alors à prévoir de la grêle, des pluies intenses, des vents forts et des orages parfois violents. Peut-être que des départements seront placés en alerte orange. On va surveiller tout ça. Et alors, sur un quart nord-est, me direz-vous, des Hauts-de-France jusqu'à la Haute-Savoie, je délimite ainsi, ce sera encore un mercredi estival, bien chaud, bien ensoleillé. Les averses orageuses arriveront en région parisienne seulement en fin de journée. Et petite info quand même qui a son importance, on va surveiller surtout les cumuls de pluie dans le Languedoc-Roussillon pour la nuit d'après, la nuit prochaine, dans la nuit de mercredi à jeudi. Quant aux températures, eh bien elles sont généralement stationnaires. Un peu en baisse quand même dans les régions de l'Ouest, quand même, il faut le dire. 23 degrés à Brest contre 31 relevés aujourd'hui, c'est une belle gamelle. 25 à La Rochelle et Biarritz qui vont perdre respectivement 9 et 10 degrés. Nantes qui affichait 34 va passer à 25 demain. En revanche, on attend toujours 27 degrés à Montpellier, 29 à Lille, 30 à Toulouse, Limoges, Mulhouse, 31 à Paris, 32 à Clermont-Ferrand. Continue à faire chaud. Hein,
encore des températures estivales. Oui.
Jusqu'à 33 exactement des vallées d'Auvergne à l'ouest de la Bourgogne.
Merci Marlène Duret. Nouveau point météo avec vous à minuit. Restez avec nous. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamot. À suivre l'invité écho, ce sera Fabrice Combolive, directeur des ventes et opérations de Renault. On découvrira aussi les unes de la presse de demain matin. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street débute donc cette semaine prudemment, hein, après un long week-end de 3 jours, le week-end prolongé en raison de la fête du travail aux États-Unis.
Exactement, oui, le Dow Jones recule de 0,76%, 35 100 points, oh, c'est pas très actif. Ce soir, le Nasdaq résiste quand même sur ses sommets historiques. On est en hausse légère de 0,07%. L'indice des valeurs de technologie est à 15 374 points. Et Apple grimpe encore d'1,5%, 156,69$. En attendant la prochaine keynote, l'événement spécial hein, en français, ce sera le 14 septembre avec la présentation des nouveaux modèles d'iPhone. Le 13e du nom, et puis d'autres produits sont très attendus comme l'Apple Watch série 7. Apple en profite en hausse ce soir d'1,5%. Les autres valeurs de technologie se tiennent plutôt bien. On a Facebook plus 1,5% à $382, Amazon plus 0,9%, Tesla encore plus 2,6% à $752,92, Microsoft est stable sur les $300. En revanche, il y a des prises de bénéfices sur le pétrole qui retombent de 0,6%, $68,40 le baril. Ça donne Exxon en baisse de 0,6% ce soir et Chevron moins 0,4%. Peu de mouvement sur les devises. L'euro campe sur les 1,1850 face au dollar.
La Bourse de Paris a aussi tourné au ralenti hein, ce mardi avant de terminer en légère baisse, moins 0,2%.
Oui, très très calme aujourd'hui à Paris, moins 0,26% exactement. On est à 6 726 points sur le CAC 40. En attendant la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, ce sera jeudi. Une réunion qui pourrait déboucher sur une restriction monétaire, on va dire un petit geste hein, de la Banque Centrale qui pourrait être un petit peu moins généreuse sur les marchés. Donc ça donne des replis aujourd'hui comme Danone, moins 2,5%, 60 euros. Bank of America ne vise plus qu'un cours de 55 euros sur Danone. Il y a aussi quelques valeurs industrielles qui ont marqué une pause. Airbus, moins 1,5%, Alstom, moins 1,3%, ou Renault, moins 1%, à 29,73 €.
Exception du jour, Didier, le titre SES Imagotag a flambé après l'annonce de ses comptes.
Le spécialiste des étiquetages intelligents en magasin et des rayonnages connectés grimpent littéralement 100 balles de 15% à 52,80 €. Le groupe SES Imagotag maintient un objectif d'environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année en attendant une nouvelle accélération en 2022. Ça se passe bien donc pour le groupe qui est en hausse de pratiquement 15% ce soir à la clôture. Les autres places financières sont assez calmes aussi en Europe. Le DAX à Francfort, moins 0,5, Bruxelles, moins 0,4, Milan, moins 0,7 et le CAC 40 en baisse de 0,26%, 6 726 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com. L'invité éco sur Europe 1 à l'occasion du salon de l'auto de Munich. Rendez-vous ce soir avec Fabrice Combolive, directeur des ventes et des opérations de Renault. Il répond aux questions d'Aurélien Fleureau.
Bonsoir Fabrice Combolive.
Bonsoir.
Merci de répondre aux questions d'Europe 1. Ici à Munich, vous êtes le directeur vente et opération de la marque Renault, seul constructeur français présent ici. Pourquoi votre venue sur un salon? Il y a une activité, pas mal de choses à annoncer pour la marque Renault cette semaine à Munich.
Oui, alors d'abord, on est très content de rester ici après cette période finalement de confinement. Hein, ça fait plaisir de revoir les gens, de revoir nos clients, de revoir nos partenaires, de revoir vous, la presse. Donc c'est d'abord un sentiment de confiance et de joie. Et en fait, on est ici pour deux raisons très simples. La première, c'est que ce salon finalement évolue. C'est passé d'un salon automobile à un salon de la mobilité. La mobilité fait partie intégrante de notre stratégie Renaultution qu'on a présentée avec l'arrivée de Luca De Meo il y a maintenant un peu plus d'un an chez Renault. Et donc ce qui est très intéressant dans ce salon, c'est que cela va au-delà de l'automobile. Ça parle de vélo électrique, ça parle de quadricycle, ça parle de trottinette et ça parle surtout de tout l'écosystème qui sera mis en place pour créer la liaison sur tous ces aspects de la mobilité.
C'est vrai qu'on était arrivé sur une période où les constructeurs se posaient la question de leur présence sur un salon. Il fallait forcément qu'il y ait une grosse annonce, une grosse nouveauté. Là, maintenant, ça devient presque plus évident d'être présent sur les salons parce que les salons deviennent justement des salons de mobilité et que notamment avec Mobilize pour Renault, ça va devenir logique d'être présent. Vous allez peut-être moins vous poser la question de la présence.
Oui, bien sûr. Et au-delà en fait, des annonces qu'on peut avoir sur le produit, je vais y revenir tout à l'heure, c'est vrai que ces salons sont extrêmement importants pour créer finalement l'ensemble de l'écosystème qui va nous permettre de nous relier les uns aux autres. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui à Munich, c'est bien sûr le lancement d'un produit majeur dans notre stratégie Renaultution, qui est la nouvelle Mégane E-Tech 100% électrique que vous pouvez voir d'ailleurs sur le stand juste maintenant.
C'est justement un lancement stratégique pour vous, commercialisation mars 2022. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, comment peut-on la décrire? C'est le même nom, mais forcément très différent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai pu m'asseoir derrière le volant, c'est forcément spectaculaire, notamment le tableau de bord, l'écran. Voilà, pour ceux, on fait de la radio. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, comment vous pouvez la décrire?
Alors, comment vous décrire Mégane finalement, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu? Je pense que Mégane électrique est le véhicule qui finalement doit lever tous les freins aux clients qui hésitent à passer à l'électrique. Parce que finalement, c'est un véhicule qui a une grande autonomie, jusqu'à 470 km. C'est un véhicule qui est à la fois compact, 4,21 m, mais qui grâce à son empattement très important a une très forte habitabilité à bord. Et vous l'avez cité, c'est un véhicule, vous le verrez, qui a un très grand écran. Je pense qu'il fait plus de 750 cm². Donc c'est un écran qui vous surprend quand vous arrivez, hein. Vous êtes comme au cinéma. Mais surtout, ce qui est important au-delà de l'écran, c'est que nous avons un partenariat avec Google qui change finalement la relation entre le conducteur, ses passagers et le véhicule.
Première voiture avec les services de Google intégrés, qu'est-ce que ça va changer pour l'automobiliste?
Alors qu'est-ce que ça change par exemple? C'est vous arrivez à planifier un trajet entre Paris et Toulouse avec non seulement bien sûr la meilleure route, le meilleur temps, mais aussi là où vous devez vous arrêter si vous en avez besoin pour recharger votre batterie, le temps que ça va prendre. Et finalement, derrière, tout au long du trajet, vous avez toute une série d'applications qui vous permettent d'interagir avec l'environnement extérieur. Trouver le meilleur restaurant, savoir devant quel château vous passez, quel est son nom, etc. etc.
Il y a aussi sur le stand de Renault, la Renault 5. Évidemment, ça avait beaucoup fait parler, cette modernisation et ce 100% électrique. Ça fait aussi partie de la stratégie. Là, ce sera pour un petit peu plus tard en commercialisation. Mais c'est aussi très important pour vous d'avoir cette nouvelle citadine qui va arriver.
Oui, alors sur le stand, comme vous pouvez le voir, il y a l'ancienne ou la première. Et puis toutes ces évolutions jusque au concept car que vous pouvez voir aujourd'hui, qui préfigure à 95% le petit véhicule électrique qu'on va lancer à l'horizon 2024. Et qui a pour vocation de démocratiser finalement encore plus l'électrique en France et en Europe.
Démocratiser, ça passe aussi par le prix. Alors je sais que vous n'allez pas nous les annoncer aujourd'hui, ce soir sur Europe 1, mais malgré tout, il y aura des efforts, que ce soit sur Mégane ou sur Renault 5, pour justement rendre, vous le dites, l'électrique, le 100% électrique accessible.
Oui, notre objectif, c'est clairement d'avoir un véhicule électrique avec, avec la nouvelle Renault 5 très accessible. Alors après, ce qu'il faut savoir, et on le retrouve dans ce salon de la mobilité, c'est que la manière finalement d'acheter des véhicules maintenant évolue. Souvent, vous n'achetez plus un véhicule en totalité, mais vous achetez, vous prenez un abonnement, vous cherchez de la flexibilité, vous cherchez finalement plutôt à payer des mensualités qui vous permettent au final d'avoir un service plus à la carte et finalement de pouvoir acheter cette mobilité de manière peut-être plus facile que ce qu'on faisait avant.
Alors, quand ces véhicules seront commercialisés, est-ce que vous espérez que la pénurie de semi-conducteurs, ce sera un mauvais souvenir? Et comment vous faites là en ce moment, au jour le jour, pour faire en sorte que les clients puissent ne pas trop attendre et puis vous en sortir, que ce soit vos usines, etc. On sait que ça dure, mais que ça va encore durer. Donc comment vous voyez cette pénurie là en ce moment, début septembre?
Alors aujourd'hui, effectivement, on parle de la pénurie des semi-conducteurs. En fait, c'est un écart entre, d'un côté, une demande, qui est d'ailleurs en train de reprendre. On constate en France et en Europe une forte reprise des commandes de véhicules. Donc un écart entre la demande et l'offre, notre capacité de production. En fait, ce n'est pas un sujet nouveau. Depuis 2 ans maintenant, et quand on est rentré dans le Covid, tout d'un coup, la demande s'est arrêtée. C'est-à-dire les clients ont arrêté d'acheter des véhicules, mais les usines se sont arrêtées aussi. Et depuis 2 ans, finalement, on gère chaque jour, chaque semaine, chaque mois, des écarts qu'il faut compenser, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors ça, on le gère avec des solutions structurelles, c'est-à-dire qu'on essaie de mieux travailler nos stocks. On essaie de réduire la diversité pour concentrer nos offres sur quelques versions clés. Mais on essaie d'avoir une réactivité beaucoup plus importante pour fusionner ou enfin égaliser les demandes entre ce que peuvent faire nos usines et ce que fait la demande. Donc effectivement, actuellement, on est dans une phase où il nous manque des semi-conducteurs. On sait le gérer, on continue à le gérer. Je pense que la première conséquence sera d'abord, finalement, d'avoir peut-être des délais de livraison un peu plus long, parce qu'on est en train de constituer un portefeuille de clients beaucoup plus important qu'avant. En revanche, on y travaille d'arrache-pied pour arriver à livrer nos clients le plus rapidement possible.
Très bien. Eh bien, merci à vous, Fabrice Cambolive, seul constructeur français présent ici à Munich. Vous êtes directeur vente et opération de la marque Renault. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Retour de l'interview Echo demain, 22h20, avec Emmanuel Dutheil.
Voilà pour ce détour par le salon de l'auto à Munich. Emmanuel Dutheil et Elisabeth Assayag vous attendent effectivement demain de 13h à 14h dans La France Bouge sur Europe 1 avec une émission consacrée à l'immobilier. Le secteur se porte à merveille. Leur invité sera Laurent Vimont, le patron de Century 21.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
La plupart des unes de vos journaux sont consacrées demain, mercredi 8 septembre, à l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015 avec un mot d'ordre à la une de Libé, mot d'ordre faire face, tout simplement. 20 accusés, 1800 parties civiles, des mois d'audience, un traumatisme collectif. Le procès qui s'ouvre ce mercredi sera hors norme. Que peut la justice, se demande le quotidien L'Opinion. La cour d'assises commence un marathon de 9 mois, c'est inédit. Procès au cœur de l'enquête, c'est le titre de La Croix. Le procès des attentats du 13 novembre est l'aboutissement d'une enquête tentaculaire qui remonte jusqu'au cœur de Daesh. Un procès historique, titre Ouest France. Parmi les accusés, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos pilotés par l'État islamique. C'est le procès du siècle, un procès qui sera filmé pour l'histoire. Et puis, un dossier immobilier à la une du Figaro. Le Figaro qui se penche sur le boom des villes moyennes. Avec l'essor du télétravail, les Français cherchent de l'espace. Ils délaissent les grandes métropoles au profit des villes moyennes et des grandes banlieues. Allez, avant de retrouver Olivier Delacroix, on retourne tout de suite au Groupama Stadium. France-Finlande, match de qualification pour le Mondial 2022. Cyril Delamourinerie, toujours 2-0 pour les Bleus.
Oui, 2-0 pour l'équipe de France. Il reste 4 minutes à jouer. On a failli assister au but de Karim Benzema, l'enfant du pays qui a frappé du pied gauche. Mais sa frappe croisée a été détournée par le gardien finlandais. Une très belle équipe de France ce soir qui maîtrise et qui va tout faire, même si elle perd le ballon. Attention, dans la surface de réparation, Goloris va devoir s'interposer. Est-ce qu'il y aura pénalty? On va attendre, on va voir. En tout cas, il y aura sans doute un corner. Non, pas de pénalty corner, mais ça a été extrêmement chaud parce que l'objectif de cette équipe de France maintenant, c'est de ne pas encaisser de but, puisque depuis 5 matchs, les 5 derniers matchs, c'était 5 matchs nuls, et à chaque fois les Français ont encaissé au moins un but et Didier Deschamps a décidé ce soir de titulariser trois défenseurs centraux pour justement stopper cette hémorragie. On va suivre ça sur ces dernières minutes. En tout cas, les Français peuvent remercier Antoine Griezmann, auteur d'un doublé ce soir. Il égale Michel Platini, le rejoint avec 41 buts avec donc le maillot de l'équipe de France. Il reste 3 minutes à jouer à Lyon dans une superbe ambiance. 2-0 pour l'équipe de France face à la Finlande.
Belle ambiance, on entend cela. Merci à vous, Cyril de la Morinerie, en direct du Groupama Stadium. 2-0 donc pour les Bleus à quelques minutes de la fin de France-Finlande. Olivier Delacroix pour la Libre Antenne nous a rejoint. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre.
Ça fait du bien de voir les Bleus prendre le dessus, enfin. Hein.
Enfin, mais moi je n'étais pas très inquiet.
Vous n'étiez pas inquiet?
Non, ça m'a plutôt même énervé d'entendre nombre de nos confrères mettre Griezmann à la poubelle, presque Didier Deschamps qui devait démissionner. En France, vous savez, ça va très vite. Vous devez le savoir, vous qui êtes un passionné de l'info.
Et Griezmann qui se rattrape très bien ce soir, pour le coup.
Qui se rattrape, mais qui fait quand même... Le dernier match n'avait pas marqué, mais les deux d'avant avaient marqué quand même. Ouais. On a la mémoire courte dans ce pays.
Trop.
Bon, écoutez, on vous retrouve tout à l'heure pour le flash à 23h. À
merci
tout à l'heure, Alexandre.